Le public n'a pas, comme dans les autres arts, une connaissance suffisante de l'histoire de la danse.
Pendant le festival Montpellier Danse,
saut de bichet entre chats,
chorégraphes, danseurs et festivaliers sont sur Divergence.
C'est là où il y a les plus profondes chances de créativité.
Divergence.
Je crois que les gens doivent se servir de la danse pour exprimer leurs propres idées.
Les grands noms de la danse acceptent de se produire.
Dominique Palouet,
Philippe Découflé, Ningam,
Montpellier Danse,
Pina Bausch, Mel
Jocage, Nagui Marin,
Raymond Hogue,
William Forsythe.
On voit ce qu'est vraiment la danse.
Mais je ne demande que ça.
Décidément, ce festival approche de la fin. Nous sommes le 3 juillet, il s'achève le 6. Bonjour Lucie.
Bonjour Vincent, bonjour tout le monde.
Et toujours le sourire dans cette voix.
Toujours.
Admirable. Quel bon casting cette émission. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de François Chéniaud. Ça va être le gros morceau parce qu'il commence donc sa pièce en solo aujourd'hui, plusieurs fois dans la journée. Ça s'achèvera samedi. Donc bah, tu nous parleras hein, de cette volonté de jouer plusieurs fois dans la journée dans un festival. On écoutera aussi Akaji Maro, l'étonnant japonais, hein, qui présentera son Crazy Camel ce soir, un cabaret, ce sera une seule date, donc il avait déjà présenté Virus, c'était samedi. Et puis on va faire avant tout donc, un retour sur la Crida Company, le spectacle qui s'intitule...
Mañana es mañana, qu'on a vu hier soir.
Donc c'était hier soir effectivement à la vignette, c'est encore ce soir à 20h à la vignette. On va écouter donc les spectateurs plutôt réjouis dans l'ensemble.
Il y a des petits passages sympas, mais il manque pas des fils conducteurs. Un petit fil rouge, enfin voilà, on aime bien les histoires.
Et vous en trouvez plus dans la danse ou...
On connaît pas la danse en général. Mais je m'attends à autre chose. On avait d'autres attentes, on va dire. On va se faire taper dessus, à mon avis, parce que tout le monde a aimé.
Je sais pas si je vais dire des choses très, très originales. C'est des artistes qui montrent leur trip comme ça, dans la maîtrise de leur art et dans la simplicité de leur présentation. C'est énormément d'émotion, en tout cas pour moi. C'est vrai qu'on est plus dans du cirque dans de la danse, on a plus l'habitude de rire au cirque dans la danse, mais je crois que maintenant la tendance est à des spectacles qui ne sont plus cloisonnés spécifiquement danse ou spécifiquement cirque, et ça correspond tout à fait à mon avis à cette ouverture à transdisciplinaire.
C'était formidable, c'est la première fois que je m'accompagne qu'on voit un spectacle de cette nature et avec cette variété en fait de sentiments qu'on peut ressentir au fur et à mesure. Je trouve que j'en ai beaucoup ri ce soir, mais il y a des moments vraiment à la fois inquiétants, voire terribles, et puis plastiquement c'est très très réussi. Il y a des tas de références, je trouve, à l'art pictural, à la peinture, etc. Je trouve que c'est vraiment super, et puis ça emprunte à différents types d'art.
Qu'est-ce que t'as aimé finalement ?
Un peu tout.
Voilà, c'était un petit garçon.
Voilà.
C'était peut-être pas le seul d'ailleurs, parce que j'en ai entendu un autre. Donc c'est un spectacle effectivement tout public, on peut le dire comme ça.
Oui, c'est un spectacle tout public parce que vraiment, déjà, c'est voilà, cette simplicité, cette fraîcheur, cette humanité en fait, hein, qui se dégage sur scène, beaucoup d'émotions, cette simplicité. Et en même temps, comme ils expliquent, avec cette maîtrise de leur art, quoi, mais comme des techniques vraiment au service de cette humanité et pas l'inverse en fait. Et c'est ça qui m'a beaucoup touchée.
Alors, c'est au service aussi d'une certaine cruauté. Parce que c'est ce qui m'a frappé, il y a quand même beaucoup de scènes qui sont, alors pas des mises en danger, on va pas exagérer, mais...
Si, je pense qu'on peut appeler ça comme ça.
Oui, hein, si on exagérait, voilà. Mais voilà, il y a quand même une espèce de petite mise en danger quand même, voilà, c'est assez intéressant, il joue là-dessus.
Sur la limite.
Puisqu'il manipule, donc il y a une fille et trois garçons, il manipule une fille, mais vraiment dans tous les sens. C'est comme ça que ça commence. Après, on voit quelqu'un, alors il faut intervenir une vidéo, mais on va peut-être pas tout dévoiler, mais... Là aussi, il y a une mise en danger. Enfin, c'est quand même assez présent dans cette pièce. Hein.
Ouais, on sent. C'est quand même ça que j'ai trouvé intéressant aussi, c'était que dans un format spectacle, voilà, dans un théâtre, qui s'intègre dans le festival de danse. Comment en fait ils ont quand même donné aussi l'esprit du cirque dont ils sont imprégnés finalement, mais avec ce format là qui est différent, et puis en plus c'est, comme il dit, une œuvre transdisciplinaire, enfin c'est quelque chose qui mélange vraiment tous les genres, qui s'enferme pas à la forme, mais en tout cas là ce qui était intéressant c'était cet univers
pluridisciplinaire ou...
Non, j'ai perdu le fil en fait.
C'est pas grave, on va plutôt enchaîner pour dire qu'on rit beaucoup quand même.
Oui, on a beaucoup rigolé, hein? Moi j'ai beaucoup rigolé.
C'est assez rare finalement.
Oui, voilà, c'était sur la prise de risque, cet univers, oui. Voilà, c'était vraiment cette chose dans le cirque, il y a toujours ça, cette mise en danger, pousser les limites, etc. Et ça, je pense que ça fait du bien de voir ça sur un plateau comme ça, surtout dans un cadre de festival de danse où des fois il y a des personnes, on voit très bien, qui ont une approche de la danse. Il y a eu des historiens, des intellectuels, tout type de personnes qui sont vraiment dans la physicalité, enfin quelque chose de voilà. Et là, on est encore dans ça, plus autre chose, plus aussi ce fil conducteur qui n'était pas effectivement visible peut-être pendant le spectacle, mais en tout cas, je pense que ce qu'on peut voir, c'est quand même quelque chose de très intuitif, un travail qui fait une sorte de patchwork en fait de différents moments et qui, je pense, est un peu comme on pourrait voir un carnet de croquis, un carnet de route, un carnet de voyage, parce qu'il y a aussi des vidéos qui parlent de ça, on les voit sur la route, on les voit dans un lien d'amitié, etc. Et ça, ils le revendiquent, ça, dans leur manière de travailler, parce que pour eux, c'est des créations qui vraiment prennent naissance dans ces liens humains, ces liens d'amitié, et du coup, ces moments d'inspiration mutuelle qui fait sortir ces moments poétiques en fait, qu'on voit tout au long du spectacle.
Ouais, moi je trouve qu'il n'y a pas énormément de poésie, il y a plus de burlesque et d'humour finalement, et c'est pour ça que les gens rient, c'est pour ça que les gens applaudissent.
Tu as trouvé qu'il y avait de la poésie?
Non, j'ai pas trouvé normalement qu'il y avait de poésie par rapport à beaucoup, à d'autres pièces de cirque contemporain et par rapport à certaines pièces de danse. Mais après, voilà, ce n'est que mon avis.
Oui. Après, bon, moi j'ai trouvé ça poétique. Après, voilà, c'est vrai que bon.
Chacun se fait son histoire.
Fait son histoire dans sa tête.
Donc ce sera ce soir, encore une fois, au Théâtre de la Vignette. C'était complet hier. Ouais. Il y avait quand même pas mal de spectateurs intéressés, mais vous pouvez toujours tenter le coup. On passe à tout autre chose, parce que c'est Akaji Maro qui revient après sa pièce Virus, un peu étonnante, qu'il a jouée samedi. Cette fois-ci, c'est sous la forme d'un cabaret, c'est le Crazy Camel. Alors, il reprend la forme des cabarets qui existaient. Alors, il parle d'il y a 40 ans, ils avaient déjà formé un petit cabaret comme ça. Ils allaient un peu partout dans le Japon. Et le but du jeu, c'était d'intéresser ceux qui buvaient. Hein, c'était pas facile.
Il devait se faire remarquer. Alors, ils expliquaient qu'il devait foncer dans un mur de papier toilette, par exemple, histoire d'attirer l'attention. Enfin, il disait que ce n'était pas du tout la qualité qu'il recherchait, mais plutôt justement d'attirer l'attention.
Voilà.
D'attirer l'attention, ouais.
Alors, on va l'écouter, Akaji Maro, et puis on en parle un peu après.
Le virus, c'était un corps poudré en blanc à la Buteau, comme on a l'habitude de présenter. Mais demain, nous allons présenter un corps huilé en or. Kim Puncho, à l'origine, c'est un numéro de cabaret. Donc, c'est un registre de cabaret que nous allons adapter en pièce de spectacle. C'est un registre de cabaret que nous avons eu l'habitude, il y a 40 ans, à interpréter dans les cabarets, dans les années 60. C'est vrai qu'à l'époque, on était danseurs buteaux, mais en même temps, on faisait des tournées de cabaret dans tout le Japon. Des fois, c'était un solo, des fois, on allait jusqu'à 10 danseurs. Bon, 10 personnes, ça dépasse un peu le budget des cabarets, donc c'était en général de 1 à 3 personnes, on se formait une équipe et on faisait des tournées. Ça nous permettait aussi de découvrir des lieux différents dans tout le Japon et aussi d'apprendre à danser devant une clientèle qui n'était pas obligée d'apprécier le spectacle parce qu'ils étaient sous l'alcool. Donc il fallait trouver une astuce artistique et expressive pour attirer l'attention de la clientèle qui buvait entre eux des verres. Et donc cette expérience nous a permis de danser en essayant de trouver une façon d'attirer le regard du public vers nous. Des fois, le plateau il était tout petit, on avait un mur rempli de papier toilette, donc on allait foncer dans ce mur, on se faisait engloutir par les papiers toilettes, et ensuite on enchaînait une danse après avoir attiré l'attention du public, par exemple en faisant des happenings de ce genre. En général, c'était des numéros de un quart d'heure à 20 minutes et l'important, c'était de comment capter le regard du public. C'était pas la qualité de la danse qui primait. Nous étions en général anonymes, pas connus du tout au niveau national. Donc le public nous regardait de travers. Hein. On avait l'impression de foncer dans une équipe d'ennemis et présenter une danse. Donc dans ce temps limité, l'important c'était de comment donner une intensité de performance devant ces personnes qui n'étaient pas obligées de nous regarder. C'est vrai que le titre était un clin d'œil au Crazy Horse parce que quand on voulait le jouer pour la première fois, c'était à Paris et on s'est dit bon, bah, on va jouer le rival au Crazy Horse. C'est un jeu de mots, tout simplement, mais le thème c'était vraiment comment jouer sur scène, comment s'amuser sur scène. Mais le Crazy Camel, c'est une pièce qui mélange un genre buto dans le genre de Kimpuncho, qui est un peu mixé par rapport à ce qu'on présentait dans les années 60. À l'époque, dans les cabarets, c'était une danse beaucoup plus occidentale dans les années 60. Mais ce ne sera pas amusant si on fait ça aujourd'hui. Donc, nous avons inséré des éléments du buto comme le ganimata, les jambes entrouvertes et la gravité du corps très basse. Et les expressions de visage, au lieu de allonger les bras, on les crispait par exemple. Nous avons essayé de rajouter une intensité différente au cabaret de l'époque. C'est une pièce qui dure une heure, mais on a voulu aussi intégrer un aspect théâtral également. En général, dans les cabarets, on n'utilisait pas du tout des pièces de musique de musique classique, mais cette fois-ci nous avons mixé la musique les quatre saisons de Vivaldi. Les quatre saisons peuvent aussi être une référence de la vie de l'humanité, de l'homme. Donc vous allez retrouver cette transgression dans cette pièce.
Ce ne sera pas dans la pièce, évidemment. C'est une interprétation de moi-même. Donc, des quatre saisons de Vivaldi, par contre, qui seront bien. Ben oui, non, mais si, il l'a dit.
Extraordinaire, Vincent.
Oui, il suffit de ralentir, là.
Voilà,
bon,
magnifique.
Effet radiophonique, quand Compositeur. Tu nous tiens. Donc, c'est ce soir à Kajimuro. Donc, Maro, pardon. Avec Crazy Camel, donc un cabaret, c'est à l'Agora, c'est à 22h, en revanche, puisque c'est après le spectacle de La Crida.
C'est ça.
On va terminer cette émission avec François Chéniaud. C'est un peu une petite star en ce moment de la danse contemporaine. Oui, hein, parce qu'il fait des performances. Alors, il était déjà venu à Montpellier Danse avec bien sa complice. Alors là, il ne faudrait pas que je l'écorche, mais Bengolea, je crois. Voilà. Et donc, ils avaient fait trois pièces alors assez étonnantes, notamment. Il travaille sur la contrainte. Et tu sais de quoi je vais parler, Lucie, c'est pour ça que tu... Voilà. Mais effectivement, ils avaient des godes, ils avaient des godes donc, dans l'anus, et donc ils devaient danser comme ça. Donc là aussi, ils travaillent sur la contrainte, mais cette fois-ci, la contrainte du costume, ouf, donc on peut emmener tout le monde. Et donc, on va l'écouter, François Chéniaud. Alors, oui. c'est un universitaire aussi, qui est devenu danseur, discours plutôt clair, et puis assez radical.
Très clair. Jack Knight in Dakota House. All we wanna do is make you bounce.
C'est pas un solo pour interrompre toutes les collaborations, au contraire, c'est pour mieux les continuer. C'est vrai que la dernière pièce Twerk, elle était confrontée à des enjeux collectifs de groupe, et j'ai eu envie de traverser presque l'antidote, et aussi sans me laisser ventriloquer par les professionnels ou par les programmateurs qui peuvent être rapides à nous enjoindre de travailler avec tel et tel ou de rester selon telle ou telle constellation. Et c'est vrai que pour moi, les collaborations sont trop précieuses pour vouloir les abandonner à ceux à qui elles appartiennent pas. Donc pour moi, c'était important d'aller vite presque, de me dire c'est vraiment le moment de cette année dans ce travail, mais pas pour me lancer dans une carrière solo, mais pour explorer qu'est-ce que c'est que de travailler comme ça. Et je l'ai éprouvé toute l'année, c'est un écosystème tellement différent que celui de travailler à 2, à 5, à 3, à 4. C'est une manière de réfléchir, de se connecter au monde, de se connecter à soi-même, de faire venir les gestes, de faire jouer son sens critique, tellement différente. Et c'est aussi un peu, à un moment, j'avais un peu la métaphore de vêtements. C'est comme si on travaille à deux, c'est comme si je veux pas tout le temps travailler en groupe, c'est comme si je voulais pas tout le temps mettre un jean et un pantalon. Je peux vouloir mettre une combinaison. Travailler en solo, c'est un peu comme de mettre un vêtement qui change, ça change le... Et donc voilà, j'ai pas envie de porter tous les jours les mêmes vêtements. C'est certes un solo, mais ça reste néanmoins une collaboration avec Romain Brault, qui est donc un couturier de mon âge, basé entre Anvers et Paris. Et c'est en fait la première fois, effectivement, pour chaque pièce, les costumes et la manière dont on est habillé, c'est très déterminant. Mais on n'avait jamais travaillé avec de designer ou de couturier. Donc c'est la première fois que je travaille avec quelqu'un avec qui on a collaboré longtemps pour vraiment construire quelque chose ensemble. Et c'est vrai que vous verrez la pièce, ça a une importance capitale, à la fois visuelle, en termes de chorégraphie, et ça charrie beaucoup de signification aussi. Donc plusieurs costumes assez monumentaux, et qui amalgament des techniques de confection très diverses. À la fois, il y avait le défilé de sa collection samedi, pendant la Fashion Week Homme, donc c'est vraiment, il est à la fois très inscrit dans les circuits de la couture, etc. Et en même temps, c'est très, très artisanal. Donc, il peut aussi bien utiliser un renard précieux que de la colle à chaud vraiment bricolée, des cheveux et des décorations au laser. Donc, c'est des imbrications de techniques à la fois très anciennes, du tissage de végétaux, et assez, disons, récente. Voilà, le laser en est un bon exemple. Beauty school drama, no graduation day for you. Beauty school drama. C'est vrai que quand même, pour cette pièce, c'était pas joyeux, mais en tout cas, je me suis dit, j'ai envie de... Un peu comme un enfant, presque. J'ai eu envie de faire que des choses que... Très spontanément, j'adore faire, même si dans toutes les pièces, j'essaie de ne faire que des choses que j'aime faire, de rien m'imposer qui me déplaise a priori. Mais donc c'est vrai, j'ai voulu travailler avec ce couturier, j'ai voulu être en spectacle plusieurs fois par jour parce que c'est ce que je préfère au final, c'est ce que je préfère. J'aime mieux être en spectacle qu'en répétition. Donc je me suis dit, j'ai l'impression de plus avancer dans ma pratique, dans mon art, quand je suis en spectacle, quand je suis en répétition. et j'adore chanter. Je sais pas, j'ai eu envie d'assembler, donc il n'y a pas eu de, il y a pas eu du tout de processus de vouloir explorer les tréfonds les plus sordides et saumâtres.
Wow.
Come on, check your body.
Oh, wow, quelle musique. Donc, alors, notre compositeur Vincent.
Non, absolument pas. Là, ce ne sont pas les musiques de la performance de François Chéniaud, mais en revanche, c'est sa playlist, une playlist qu'il avait donnée au site Libération. Et d'accord. Je me suis inspiré de cette playlist pour mettre ses chansons. Et donc là, on écoutait Lady. Lucie, avec toi, on va parler un peu de cette particularité finalement pour ce Montpellier Danse. Alors certes, c'est une performance, c'est un solo, donc ça dure un peu moins d'une demi-heure.
Oui.
Et ça va être joué trois fois dans la journée.
Voire quatre en fait, puisque là...
Tu as tout à fait raison.
Voilà, il fait 15h, 17h30, 21h, 23h30 aujourd'hui. Et puis les autres après, jours, vous regarderez, hein, c'est aussi jeudi, vendredi, samedi.
Oui.
Mais vraiment, c'est... Merci Vincent. En tout cas, vraiment, moi, je voulais insister sur ce dispositif avec petite jauge de cinquantaine de places qu'il amène lui-même, en fait, qu'il a vraiment mis lui-même en place. En fait, c'est encore une fois, je pense, toute sa recherche de questionner la forme, changer les formes, bousculer les codes, bousculer un peu tout ça, parce qu'il se questionne vraiment sur ce rapport d'intimité et d'intensité avec le public. Et je pense vraiment que c'est une très, très bonne idée, en fait, d'amener ça sur un festival comme Montpellier Danse, où vraiment c'est quelque chose... c'est l'institution, il y a des spectacles dans des salles avec des jauges énormes, où vraiment peut-être, aussi on peut reparler peut-être du travail d'Emmanuel Gatt, qui a eu cette recherche aussi, pour 200 personnes, de diminuer la jauge au quorum. Mais vraiment, en tout cas, on sent ce souci pour François Chéniaud de se rapprocher du public et de partager vraiment ce moment d'intimité. Et pour lui, c'est vraiment une performance, hein, puisque 20 minutes... c'est quand même 20 minutes en solo, c'est énorme en fait, on croirait que... mais en fait, c'est vraiment énorme. Et puis ce qu'il disait, c'était cette chose de remettre à chaque fois, de tout donner en fait à chaque fois, de telle sorte qu'on se dise, il disait ça, hein, il disait de telle sorte que quand on voit le spectacle, on se dit c'est pas possible, il peut pas le refaire en fait. On vient de vivre une expérience unique tous ensemble et c'est pas possible que derrière il le refasse. Et lui, il le refait derrière encore trois fois. Donc c'est vrai que je pense pour lui, ça doit être quelque chose d'assez éprouvant comme expérience. Et je crois que c'est très intéressant parce qu'actuellement, on se pose vraiment plein de questions pour les artistes aussi dans la danse et qu'il y a très peu de représentations. Il faut savoir qu'en général, pour une production, on reconnaît qu'elle est rentable à partir au moins de deux représentations pour la danse, donc dans la diffusion. Donc c'est vraiment très, très peu. Pour le théâtre, c'est une douzaine apparemment. Donc, c'est pour des chiffres un peu, mais lui, en tout cas, il ouvre un nouveau chemin où finalement, comme il dit, l'œuvre, elle évolue, selon lui, elle grandit vraiment à partir du moment où elle est en contact avec le public. Et ça, c'est très important, je pense, parce que du coup, on est vraiment dans quelque chose de concret, un spectacle qui se pétrit dans l'expérience de la scène. Et finalement, ça peut revenir aussi un peu titiller le monde du cirque. Donc, on voit vraiment tous ces croisements, en fait, sur le festival qui allient... tous ces univers où il y a vraiment un croisement, un métissage, il n'y a pas cette envie d'enfermer dans une forme. Et vraiment, les artistes, on voit bien qu'ils cherchent toujours à nous dire ne pas s'enfermer dans la forme, ne pas vouloir mettre une étiquette, etc. Et voilà, pourtant, c'est festival Montpellier Danse, hein, pas Montpellier Danse, cirque et théâtre, ni chant. Mais pourtant, pour moi, ça questionne aussi sur l'esprit de la danse qui vient... qui appelle tout le corps et puis tout se met en danse, même la voix, même
tout ça. De toute façon, la forme contemporaine, hein, on peut se demander maintenant où commence la danse, où elle finit.
Ça questionne la danse anéantie. En fait, tout ce festival et tous ces artistes.
Alors c'est une performance, il avait fait une performance qui s'appelait, alors Duchesse, on me l'a raconté hier, donc c'est du hula hoop, il est tout nu, il fait du hula hoop pendant 20 minutes.
Ouais.
Voilà, donc il est capable de faire des choses un peu hypnotiques. Alors là, visiblement, ce sera pas le cas, ça va être un peu plus rythmé, en tout cas. La contrainte va être sur
l'évolution
le vêtement.
L'évolution du costume en scène, voilà. Et aussi, il parlait de la fragilité qu'il peut y avoir dans l'entre-deux, changement de costume, évolution de costume. Et ça, il ne veut pas cacher les difficultés qu'il y a là-dedans. Donc, c'est aussi une manière de se mettre là en contact aussi dans cette intimité avec le public, puisque vraiment, enlever ses vêtements, changer, rajouter des choses, etc., c'est quand même quelque chose qui révèle du cadre de... Voilà, on se prépare chez soi, etc. Là, c'est vraiment très intime, finalement. Donc, il partage quelque chose, je pense, avec le public à chaque fois d'intime. Hein. Comme tu l'as dit tout à l'heure, à chaque fois, je pense qu'il a vraiment cette problématique-là. Donc bon, après, on aime, on n'aime pas. Mais en tout cas, voilà, on peut lui reconnaître ça, cette envie de partager.
Voilà, donc c'est François Chéniaud. Voilà. Le titre, c'est Doumi Moï. Alors, c'est un titre d'ailleurs en cyrillique, hein, en russe. Et donc, c'est joué 4 fois la journée. Vous allez sur le site de Montpellier Danse pour avoir tous les horaires. Probablement qu'il reste encore des places.
Oui. Montpellier entre dans la danse. Danse. Chorégraphe, danseur et festivalier sont sur Divergence.
Ainsi s'achève cette émission, merci de l'avoir suivi. Demain, on écoutera au moins Blancali et puis on aura quelques retours sur ce qui s'est passé aujourd'hui. et à noter qu'il y a des places à gagner de temps en temps à la fin de cette émission, donc tendez l'oreille.
Voilà,
au revoir Lucie.
Au revoir Vincent.